hits de l'été de la part de Valence, qui est donc le projet de l'ancien chanteur de Medora. Deux extraits jusqu'à maintenant, Sophie et Jupe Aquarium, devrais-je dire Jupe Aquarium, puisqu'elles sont plusieurs, et qui lancera donc cette nouvelle musique le 6 juin prochain au Maelstrom, un premier EP pour ce projet on ne peut plus printanier qui nous amène le beau temps, toujours sur les ondes FM du 94.3. À Chérie J'arrive, on a des collaborateurs récurrents qui viennent nous voir une fois de temps en temps. Il paraît que dans ce beau lundi de début de semaine, eh bien, il y en a plusieurs qui reviennent derrière les micros de Chérie J'arrive. Et parmi ceux-là, il y a Alex Tremblay-Lamarche. Salut Alex!
Allô!
Comment se passe ton printemps jusqu'à maintenant?
Ça va. Un peu occupé, mais j'ai quand même le temps de lire pour vous.
Oui, ben oui, toujours, hein, ça me fait toujours plaisir. Et bon, évidemment, là, qui dit lecture chez Alex dit lecture de chevet qui se compose essentiellement de livres d'histoire, livres qui nous parlent de différents pans de la grande et de la petite histoire. Et aujourd'hui, bien, on s'en va chez nos voisins, les Américains. Heureusement, on ne parlera pas de Donald Trump, mais de d'autres présidents tout de même là, qui ont été impliqués dans un paquet d'événements. Le premier ouvrage dont tu nous parles est paru aux presses de l'Université Laval, le Pull pour les intimes. C'est Emerson, Thoreau et Brownson au Québec, éléments pour une comparaison des milieux intellectuels en Nouvelle-Angleterre et au Bas-Canada, 1830-1860, de Yvan Lamonde. Alex, ouais, rends-moi ça le fun, s'il te plaît.
Je t'écoutais lire le sous-titre puis je trouvais que ça faisait un peu intellectuel. Pourtant, on n'est pas derrière une grosse brique, derrière quelque chose de très, très savant puis d'incompréhensible. On est vraiment dans un petit ouvrage qui fait à peu près 130 pages. Quelque chose d'assez léger qui permet d'en apprendre plus sur ces trois penseurs-là. Emerson, Thoreau puis Brunson, c'est trois des intellectuels les plus importants des États-Unis du milieu du 19e siècle. Et ils sont particulièrement importants à cette époque-là. Ils sont particulièrement dynamiques.
Influents,
ils donnent des
aussi.
Conférences. Ils écrivent des livres. Et ils vont être amenés à venir au Québec, à Montréal et à Québec pour donner des conférences. Il y en a certains qui vont écrire aussi sur leur passage au Québec et au Canada de manière plus générale, comme ça va être le cas du philosophe Henry David Thoreau. Et donc, l'historien Yvan Lamonde, qui est un spécialiste d'histoire intellectuelle, d'histoire des idées, a décidé de se pencher sur ces trois intellectuels-là, sur leur passage au Québec et sur l'influence qu'ils ont eue. Et ce faisant, il a aussi eu envie de comparer un petit peu le milieu intellectuel du Québec du milieu du 19e siècle à ce qui se passait en Nouvelle-Angleterre.
OK, quand même. Donc, il y a eu beaucoup de comparaisons que j'aurais peut-être pas fait d'emblée, je t'avouerai. C'est pas un rapprochement qui est si naturel, mais j'imagine qu'on y trouve donc de belles conclusions. C'est un œil extérieur, en fin de compte, qu'on a sur le Québec via donc les recherches et les observations de ces intellectuels-là.
Exact. Et c'est un ouvrage qui est en trois plans. Plutôt en trois points. Donc, on suit vraiment chacun de ces philosophes-là. On suit leur passage ici. On suit les idées qui présentent, l'influence que ces idées-là vont avoir. Et quand tu parles du regard qu'ont ces intellectuels-là sur le Québec, c'est assez intéressant. Henry David Thoreau, par exemple, qui est le père du concept de désobéissance civile, lui, lors c'est ça, des guerres que va connaître les États-Unis au milieu du 19e siècle, il va souhaiter ne pas participer à ces conflits-là. Et il va donc décider de ne pas payer ses impôts parce que ces impôts-là financent la guerre et que lui n'est pas d'accord avec cette guerre-là. Et c'est lui qui a vraiment inventé ce concept-là de désobéissance civile. Donc, on ne s'oppose pas par les armes au gouvernement, mais on s'oppose de façon assez pacifique. Et lorsqu'il va venir ici, il va dire que il est très, très impressionné parce qu'à Québec, il y a seulement deux types de personnes, des soldats puis des prêtres. Si vous parlez français, vous êtes un prêtre. Si vous parlez anglais, vous êtes un soldat. Bon, je caricature un petit peu et il caricature un petit peu aussi dans son propos, mais on est au milieu du 19e siècle. Québec est une ville de garnison. Québec est également une ville particulièrement religieuse et ça le frappe beaucoup. C'est quelqu'un qui, comme vous l'avez compris, aime pas trop les militaires. Et donc, c'est ça, d'en voir autant présent puis de les voir aussi de manière aussi proéminente dans la vie sociale à Québec, ça va vraiment beaucoup le frapper. Et donc, il nous livre un témoignage là-dessus. Ce livre-là, en fait, nous transmet brièvement ses perceptions. Mais si vous voulez en savoir plus sur son voyage ici, il faut lire Un Yankee au Canada, qui est le livre qu'il a lui-même écrit. Mais je vous dirais que pour mieux comprendre le contexte contexte dans lequel ça a été rédigé pour mieux comprendre l'homme, eh bien, ce petit livre-là, Emerson, Thoreau et Bronson au Québec d'Yvan Lamonde, est vraiment l'idéal pour se mettre dans le bain.
Ouais, donc une belle mise en contexte également sur une période socio-économique et politique aussi au Québec vue de l'extérieur. Et qui dit États-Unis dit quelques petites confrontations, n'est-ce pas? Je dis petites.
Ouais.
C'est tout
des
de même.
Des grosses aussi.
Oui, il y a des petites et des grosses. Il y en a de toutes les sortes, même aujourd'hui. Mais à l'époque, évidemment, ça ne date pas d'hier, ces petites chicanes de voisins. Voisins et ennemis, c'est le titre de l'ouvrage La guerre de sécession et l'invention du Canada. Tout de même, pour ma poche, c'est l'édition que tu nous amènes. Donc, c'est une belle petite brique, là, quand même, là, qui va parler, j'imagine, de la guerre de sécession, Alex. Hein?
T'es tellement perspicace.
Ah, je sais. L'esprit de déduction, toujours bien aiguisé.
Effectivement, et c'est surtout révélateur d'un titre qui est clair. Et c'est ça, La guerre de sécession et l'invention du Canada de John Boyko. C'est un livre que j'ai découvert récemment lorsqu'il est sorti en format page, et qui m'était passé, qui avait passé sous le radar, mon radar historique au cours des dernières années, parce que d'abord, il a été publié en anglais en 2013, puis en 2015 en français. Une traduction d'ailleurs qui a été en nomination pour le prix littéraire du gouverneur général, traduction de Catherine Ego. Et donc, c'est ça, une traduction dont la qualité a été saluée. Et bon, plus récemment, à l'automne, si je ne m'abuse, ou à l'hiver, il a été réédité en format poche, parce que c'est un petit incontournable, je vous dirais, en histoire canadienne. Tout simplement parce que, bon, lorsque vient le temps de parler de la Confédération au Québec et au Canada de manière plus générale, on dit souvent que, bon, c'était parce qu'on n'arrivait pas à avoir une stabilité politique. On dit souvent qu'il y avait une volonté de créer un chemin de fer et que, bon, ça prenait, bon, une alliance entre les différentes colonies britanniques nord-américaines pour y arriver. Or, ce que met de l'avant John Boyko, c'est que, bon, le principal facteur, ça serait pas ça, mais ça serait plutôt, bon, la crainte américaine. Parce que, bon, les Américains sont quand même assez puissants, sont quand même assez nombreux, et on se rend compte que si jamais ils voulaient nous envahir, bon, on serait peut-être pas capable de résister. Ça a quand même été en 1775, lors de la Révolution américaine, mais bon, ils avaient quand même gagné partout sur leur passage, sauf à Québec. En 1812, bon, ça a quand même bien fini, mais on se rend compte au milieu du 19e siècle que c'est ça, s'il fallait qu'ils nous envahissent, on serait dans le pétrin.
Ouais.
Et donc, il va y avoir une volonté de s'unir pour être capable de résister face à un envahisseur.
Donc, c'est une menace, finalement, américaine qui aurait, entre autres choses, donc mené peut-être plus rapidement à bien le projet de la Confédération à l'époque. Donc, plusieurs facteurs, évidemment. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais on écarte peut-être souvent dans les grands livres d'histoire cette présence américaine qui était jamais non loin, finalement, et qui, elle, était quand même assez ramassée. Il était prêt, eux autres, en bas.
Et puis, c'est à la même époque, si je me trompe pas, que la citadelle de Québec a été peut-être construite. La citadelle de Québec qui a été construite justement pour se prévenir, pour prévenir une attaque potentielle américaine. Ça a été la raison pour laquelle ça a été construit. Donc peut-être
oui, la citadelle de Québec est construite à la fin du 18e siècle pour être capable de se protéger d'une éventuelle invasion américaine. Puis, ben, par la suite, on va construire notamment le phare numéro 3 à Lévis, à peu près à l'époque de la guerre de sécession, pour être capable de se protéger d'une éventuelle attaque. Et donc, on a peur au Québec. On a peur également en Ontario. Le canal Rideau, par exemple, à Ottawa, va aussi être développé en vue de se protéger d'une éventuelle invasion, parce que si jamais les Américains étaient capables de gagner le Canada, eh bien, ils étaient capables de couper l'Ontario du Québec, et on a voulu développer ce canal-là qui contourne le fleuve Saint-Laurent dans sa région, disons, ontarienne, pour être capable d'assurer le contact en temps de guerre. Et je vous dirais que Voisins et ennemis, c'est un livre qui se lit extrêmement bien. On va suivre 6 personnages, certains qui sont plus connus, comme les pères de la Confédération, George Brown et John A. MacDonald, d'autres qui sont moins connus, comme Sarah Emma Edmonds, qui est une néo-brunswickoise qui va s'enrôler dans l'armée américaine et qui va se battre sous couvert d'homme, qui va surtout en fait jouer un rôle d'infirmier médecin. Lorsqu'on va découvrir que ça va être un homme, elle va comme être mise de côté, puis elle va revenir. Et donc un parcours qui est tout à fait fascinant, qui nous en apprend énormément sur la condition des femmes de l'époque, sur la guerre, plus sur le champ de bataille. Également, bon, on va suivre le parcours de John Anderson, qui est un esclave, qui va prendre le train de la liberté, qui va s'enfuir la Underground Railroad qui va justement tenter de s'enfuir vers le Canada, qui, ce faisant, va tuer un fermier blanc et va être accusé de meurtre. Mais comme c'était pour s'enfuir et se libérer de l'esclavage, ça va diviser les foules. Certains vont dire que c'était légitime, que c'est un esclave en fuite qu'il faut libérer, alors que d'autres vont plutôt dire qu'il doit être condamné. Et donc, je vous dirais que c'est une façon de découvrir l'histoire politique, l'histoire militaire du Canada et l'histoire diplomatique des relations entre les Américains et les Canadiens, mais de façon très humaine, en suivant 6 parcours et en étant capable de connaître davantage cette époque-là qui est tout à fait fascinante.
Mais faites-moi un film avec ça, mon Dieu Seigneur, imagine!
Il y a de quoi faire un film.
Les 6 destins croisés de ces gens qui finalement vont jamais se rencontrer vraiment, mais dont le destin va être lié d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Il y a de quoi quand même en apprendre beaucoup à échelle humaine, comme tu l'as dit, mais également à échelle mondiale, politique. C'est super intéressant, évidemment, dans la manière dont c'est approché. Ça s'appelle Voisins et ennemis, la guerre de sécession et l'invention du Canada tout de même. Comme quoi, parfois, les motivations à construire des choses peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc, ça peut être aussi la peur d'une invasion américaine. Que voulez-vous? C'est toujours bon de regarder une petite peur des États-Unis une fois de temps en temps. Je pense que c'est sain. Et cela dit, les États-Unis, ont été racontés moult fois, mais il y a des plumes qu'on a moins lues que d'autres, comme celle dont tu vas nous parler, Alex. Ça s'appelle « Contre-histoire des États-Unis » de Roxane Dunbar-Ortiz. Et c'est donc publié, mon Dieu, sur quelle maison d'édition, ça? J'en dirais que je le vois pas sur ta tranche de livre.
C'est publié, voyons.
Éditeur Wild Project, je l'ai ici.
Oui,
alors,
Wild Project.
Chez Wild Project, tu nous en parles pas beaucoup de ceux-là, hein, donc Septentrion passe toujours, là, mais cette fois-ci, on parle donc de cette contre-histoire des États-Unis. Donc, une plume qui nous vient cette fois-ci des Amérindiens pour parler de nos voisins du Sud.
Tout à fait. Une femme américaine, mais d'origine amérindienne, qui, a décidé d'écrire sur l'histoire des États-Unis, mais d'un point de vue autochtone. Parce que, lorsqu'on lit sur l'histoire des États-Unis,